et il le trouve étonnamment bronzé.
Botul trouve Trotsky bronzé.
Oui, c'est ce que je lis dans sa biographie.
Oui, mais ça, bon, c'est des rencontres historiques. On n'a pas la transcription de ce qu'ils se sont dit, se sont-ils parlé même.
Mais comment vous savez ça, par exemple ? Là, je vous interroge tous. C'est vous les Botuliens.
Oui.
Quelle est votre source pour affirmer une chose pareille ?
Alors, il y a des écrits, quand même. Là le Quai d'Orsay donne des écrits. Alors, il faut juste raconter l'histoire de Clipperton en deux mots. C'est simple, c'est Clipperton, qui est un territoire français qui se trouve au large du Mexique, a été occupé par les Mexicains pendant quelques années. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, la France a demandé la restitution de l'atoll de Clipperton à la France. Et c'est Botul qui est allé négocier pour la France, et c'est à ce titre qu'il a rencontré Zapata. Donc ça, il existe, si jamais on ne les a pas emmenés avec nous, on n'a pas emmené un représentant du Quai d'Orsay, mais le Quai d'Orsay a des écrits, parce qu'évidemment, il agit sur ordre du gouvernement de l'époque, il a des écrits, il va demander à Zapata qu'on restitue, Zapata est à l'époque le responsable du Mexique, en tout cas, occupe une partie du Mexique, et il va demander à Zapata la restitution de Clipperton à la France. Voilà.
Vous avez établi qu'il était ami de Marcel Proust. Par contre, et il rate Joséphine Baker.
Oui, ça c'est vrai.
Il rate beaucoup de choses. Il rate pas Marcel Proust. Il est quand même ami avec.
Il est ami avec Marcel Proust. Bon, là encore, sont des témoignages.
À l'époque, qui n'était pas ami de Marcel Proust.
Joséphine Baker, justement.
Et moi, je pense qu'il faut rendre compte de quelque chose dont on se rend plus compte du tout aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, le paysage intellectuel français est tout petit. Donc, effectivement, tout le monde se connaît. Donc, Botul participe de cette vie intellectuelle sans être un personnage marquant de l'époque, mais il participe d'une vie intellectuelle qui regroupe une centaine de personnes à l'époque. Donc effectivement, tout le monde se croise.
Il présente des salons,
il participe des salons littéraires.
Émilienne Duquelard.
Voilà.
Et là, vous avez justement encore le lien par rapport à l'éditeur, c'est-à-dire que les preuves que nous avons, par exemple pour la métaphysique du mou, ce sont la pièce 1, un ticket de train, Paris-Montargis, aller simple, deuxième classe, provenance SNCF, carton poinçonné, au verso, lettre ou le néant, ou alors quoi ? Commentaire, donc là, Jacques Gaillard, qui est d'ailleurs parti au sud de l'Argentine là, pour faire des recherches encore sur l'existence ou la non-existence ou l'inexistentialisme de Botul, commente « La datation fait problème. Ensui Bor, Botul in Wonderland, a tribute to French philosophical idiosyncrasy, New Haven 1963 », donc il y a des travaux de recherche qui ont commencé bien avant, « soutient vraisemblablement à tort que ce ticket est antérieur à la publication sartrienne. Il aurait été emprunté par Jean-Baptiste Botul à sa belle-sœur, née Poirot. » Texte archétypal, vraisemblablement écrit sous l'influence d'Héraclite. Donc on est dans un mouvement, un milieu littéraire où tout le monde se pique tout, et effectivement, là, sur des textes à trous comme celui-ci...
Je voulais juste dire, on a une formule entre nous, Botuliens, à propos des rencontres de Botul et de sa participation à la vie intellectuelle de la France, entre les deux guerres, c'est Botul, c'est celui qu'on a effacé de la photo.
Ah, et voilà.
C'est celui qu'on a effacé.
Et votre œuvre, à vous, c'est de le remettre sur la photo.
Voilà. C'est-à-dire, quand on a, je ne sais pas, la photo du nouveau roman, la photo des surréalistes, etc., la photo des sartriens, Botul est là, mais il n'est plus sur la photo. Donc, c'est une sorte de trou noir, comme on dit en
astronomie. Mais qui l'a effacé ?
Mais on ne sait pas non plus. C'est des gens, il y a la jalousie, la négligence.
Il y a beaucoup participé lui-même. En choisissant l'oralité, il choisit de disparaître. Il a de la chance qu'il nous rencontre 40, 50 ans après ou 100 ans après sa mort. Mais il ne nous aurait pas rencontrés, Botul serait mort. Non. Botul n'aurait aucune existence.
Moi, je crois que c'est un projet philosophique en soi que de disparaître, de s'éteindre complètement avant de renaître. C'est ça le projet botulien très fort. Cette extinction de lui-même, il fait bouillir une marmite comme ça, il met tout sous pression, il enterre le tout et il attend que quelque part, un jour, ça explose et on le voit aujourd'hui.
C'est son côté chiite, la religion chiite. C'est l'occultation du 12e imam.
Mais comment il exprimait sa philosophie ? Alors, orale, d'accord. Ça veut dire quoi ? Il se mettait à parler comme ça, de philosophie, il faisait de la philosophie. Qu'est-ce que vous savez là-dessus ? Parce que l'émission avance, quand même, il faut qu'on précise les choses.
De notre avis, de ce qu'on croit retirer de nos différents travaux, il y a deux formes, disons, d'oralité. Il y a une oralité qu'on peut appeler déambulatoire, qui est celle qu'il a sans doute pratiquée avec beaucoup de sorbonnards, de normaliens, qui se sont inspirés de lui, c'est-à-dire des promenades au cours desquels il avançait ses propres idées et qui ont été en fait l'occasion de pillages.
C'est lui qui pillait ou il a été pillé ?
Pas du tout, il a été pillé.
Ah.
Donc des pillages conceptuels, des pillages thématiques, je pense que...
Exemple ?
L'être le néant ou alors quoi ? Ça me paraît une évidence que c'est ce genre de phrase qu'il a dû avoir lors d'une conversation avec soit Beauvoir, soit